présenter un ouvrage qui est apparu maintenant il y a à l'automne 2022, donc 2 ans et demi, qui s'appelle Gouverner la science, qui relève d'une enquête qu'on a faite ensemble avec donc Christian Topaloff. Une enquête un peu particulière dans le sens où, alors, ni Christian ni moi ne sommes des spécialistes de la sociologie des sciences. Christian Topaloff est plutôt un spécialiste de la sociologie des réformes, plutôt des réformateurs philanthropes en 1900 à Paris, Chicago, New York, donc c'est pas vraiment son objet. Et puis moi, lorsque j'ai commencé à travailler là-dessus, j'étais plutôt connu pour mes premiers travaux sur le ballet de l'Opéra de Paris. Voilà. On s'est associés ensemble parce que on avait été engagé dans les mouvements contre les mesures auxquelles on était confrontés à l'université et dans la recherche. Et on s'était dit que, eh bien, il était peut-être temps d'utiliser les outils de la sociologie pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. C'est comme ça qu'on est arrivé dedans. Et on avait travaillé à l'origine avec des physiciens, des biologistes, des bioinformaticiens, principalement de l'université Paris 6, avec l'idée qu'on allait travailler ensemble aussi sur nos champs disciplinaires, en particulier les SHS et les sciences du vivant. Alors le problème, c'est que les collègues qui étaient en sciences du vivant sont repartis à leur projet de recherche, et puis c'était aussi un peu compliqué pour eux de devenir sociologue. Donc on a continué avec Christian Topaloff. Alors, je vais faire cette présentation en 3 points. Je vais essayer de l'avoir en même temps sous les yeux, ça va m'aider. Excusez-moi. Je vais essayer de revenir sur, de quelle réforme on parle. Et je vais essayer de vous proposer un récit de cette réforme. Je vais revenir ensuite sur quelques éléments, sur les justifications qui ont accompagné cette réforme, ce qu'on appelle la doctrine réformatrice chez nous. Et puis je vais revenir sur les spécificités de ce livre, qui a été de saisir la réforme à partir des réformateurs, c'est-à-dire à partir des personnes qui occupent des positions de pouvoir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vais essayer de vous montrer comment la structure du pouvoir et les propriétés qui mènent au pouvoir se sont transformées sur ces 20 dernières années. Et je vais vous travailler. Alors, ça c'est le premier point. Quelle réforme donc, premier point, c'est à partir de quand on commence un récit. Évidemment, commencer une histoire suppose toujours des prises de position. On aurait pu commencer ce livre dans les années 90, ou même les années 80, ou même à partir de 45. On a choisi de commencer ce récit en 2004 pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, 2004 a été une année qui a concentré plusieurs événements. D'abord un mouvement, Sauvons la recherche. Alors, il ne faut pas croire que je considère que Sauvons la recherche est à l'origine de l'ensemble des réformes que nous subissons depuis 20 ans, mais il se trouve que ce mouvement, donc, qui est un mouvement de directeurs d'unités de recherche, en tout cas qui a été initié de cette façon-là, et puis ensuite qui s'est développé, qui a produit ensuite ce qu'on appelle les états généraux de la recherche. Si vous voulez, on pourra revenir dessus, mais peut-être que certains parmi vous ont participé à cette histoire-là. Et à la suite de ces mouvements-là, eh bien, va s'accélérer tout un ensemble de réformes, à commencer par la création de l'Agence nationale de la recherche. Et puis, dans le cadre de la loi Pacte pour la recherche, la création de l'AERS, qui va donc débuter en 2007. D'autres aussi éléments qui ont passé peut-être un peu inaperçus à l'époque, mais qui sont importants, en particulier la fusion au sein du ministère entre la direction de la recherche et la direction de la technologie. Je m'excuse tout de suite en prévision de mon exposé. L'univers de l'enseignement supérieur et de la recherche est un univers d'acronymes dans lesquels c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Lorsqu'il y a des trucs qui sont pas clairs, vraiment vous me le dites. D'accord ? Vous n'hésitez pas. J'essaye d'en utiliser le moins possible. C'est possible que des fois je dérape. D'accord ? Mais vraiment, vous n'hésitez pas. Donc on pourrait dire qu'il y aurait une première phase qui commence vraiment en 2004. Alors il y a aussi des rapports qui ont été importants. Je vais y revenir après. Donc 2004, c'est le moment de la mise en place de toute une série de ce que nous avons appelé des machines à réformer, c'est-à-dire des institutions. Au premier chef, l'agence d'évaluation, la VRES, et l'ANR, qui vont faire basculer vraiment de façon assez nette le système du pouvoir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et lorsqu'on crée ces institutions-là, il y en a aussi qui disparaissent. En particulier, au ministère, la mission scientifique, technique et pédagogique, ce qu'on appelle la MSTP, qui s'occupait avant de l'évaluation, va disparaître, être déversée dans la VRS. D'autres institutions également. Donc c'est une vraie première transformation importante. Ensuite, apparaît une deuxième phase, qui est une phase d'accélération des transformations que nous avons choisi de commencer en 2007 avec la loi LRU, la loi responsabilité des universités, ou loi Pécresse. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a la réforme du crédit impôt recherche. Vous avez peut-être entendu parler du crédit impôt recherche, qui est la niche fiscale la plus généreuse des pays de l'OCDE.
C'est pour que tu vois ce qu'il y a fait.
Oui, je l'ai là. En fait. Ah bah oui, je passe les diapos sur mon ordinateur. Et personne ne dit rien en plus. Je suis super sympa avec vous, je suis en train de lire mon PDF. Merci, c'est plus sympa comme ça, je vais y arriver. Ok. Ouais, ça va être plus facile pour vous en suivant comme ça. N'hésitez pas hein, quand je fais des bêtises à me dire. Donc, deuxième phase, pour nous, voilà, la LRU, c'est une phase qui va arriver vraiment sur une transformation là, du système du pouvoir dans les universités, mais il y a aussi toute une série de mesures donc je vous disais, le crédit impôt recherche, il y aura une réforme radicale de ce dispositif qui existait déjà, qui va en faire un système phare du financement de la R&D privée en France, et qui rentre dans le budget ministériel financement de l'ESR. Et puis c'est à ce moment-là aussi où démarrent les premiers programmes d'investissement d'avenir et ce qu'on va appeler les politiques d'excellence. Je vais y revenir juste après. Donc c'est ce qu'on appelle le Big Bang, qui est vraiment l'œuvre du ministère Pécresse. Alors il ne faut pas croire, hein, lorsque Pécresse arrive au ministère, je crois qu'elle arrive au ministère en avril ou mai, et elle va faire passer 2007, la loi LRU passe en août 2007. Donc il ne faut pas croire que c'est strictement l'œuvre de Madame Pécresse, même si elle est évidemment très très forte. Il est fort probable que en fait, le texte de loi était déjà dans les tuyaux ministériels depuis un certain temps. D'autant plus, comme vous le savez, l'intérêt de Valérie Pécresse pour la recherche, l'avenir de sa carrière a montré qu'il n'était pas si remarquable. Heureusement pour nous. Troisième phase, qui est une phase en fait très importante, qui là peut paraître ne pas en être, ce qu'on appelle la consolidation sous la présidence Hollande et le ministère Fioraso. Alors pourquoi ? En fait, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une loi, effectivement, en 2013, je suis désolé, il y a un 2 qui s'est placé à un mauvais endroit, loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais surtout, en fait, on va refaire les programmes d'investissement d'avenir, PIA 2, PIA 3, et donc on va continuer, en fait, cette politique d'excellence avec des nouveaux appels à projets. Donc en fait, qui va consister à choisir 10 universités de rang mondial, mais aussi réformer les cursus universitaires, la formation, et c'est à ce moment-là aussi où les notes que donnait l'AERS, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, ils ne savent peut-être pas, peut-être d'autres ont oublié, mais l'AERS donnait des notes au laboratoire, et il s'agissait de déterminer les périmètres d'excellence, entre guillemets, pour pouvoir appartenir à l'ABEX, et bien ces notes ont été mobilisées pour expliquer qui était, enfin séparer le bon grain de l'ivraie. Et puis, donc, alors pourquoi elle est si importante, cette phase-là ? Parce qu'il y a eu toute une série de mouvements dans le cadre de la campagne aussi électorale qui a amené les socialistes au pouvoir. Et il y avait l'idée qu'on allait peut-être pouvoir justement mettre un coup d'arrêt ou changer cette politique scientifique. Et en fait, ce que vont faire les socialistes, et c'est la raison pour laquelle c'est si important, c'est qu'ils vont rendre impossible de revenir en arrière, puisqu'en fait, ils vont continuer cette réforme. Et alors c'est peut-être aussi un des succès, un des marqueurs du succès d'une réforme, c'est que les majorités politiques peuvent changer, ça ne change rien à l'évolution des mesures réformatrices. Là en l'occurrence c'est le cas sur trois types de gouvernements différents. Et donc la phase Macron, une phase un peu de radicalisation, c'est le moment en particulier où... ce qui faisait peur à la droite depuis la loi de Vaquet et la mort de Malik Oussekine, qui était le fait d'instaurer la sélection à l'université, eh bien, Macron va réussir à le faire, avec Parcoursup. Et donc, toute une série de mesures qui continuent dans la même logique, cette réforme, le dernier opus... et peut-être la mise en place des comptes dont vous avez peut-être entendu parler, les contrats d'objectifs de moyens et de performance pour les universités, qui sont censés fixer dorénavant la grande majorité des dotations des établissements. Je ne sais pas où en est la situation pour quand, vous me le direz, mais je crains que vous ne soyez pas nécessairement des gagnants dans l'affaire. Voilà, à grands traits, toute une série de mesures. Alors, une chose importante, j'ai commencé à quelle heure ?
15h.
Donc ça fait déjà 10 minutes, ok. Une chose importante, depuis tout à l'heure, je vous parle de la réforme. Et en fait, ce qui est souvent compliqué lorsqu'on travaille sur cet objet-là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de mesures disparates dans tous les sens, que ça, voilà, il y a sans cesse des nouveaux trucs, et on n'a pas l'impression qu'il y ait d'unité entre les différentes mesures. C'est possible d'ailleurs que même les réformateurs eux-mêmes n'avaient pas toujours conscience des conséquences de ce qu'ils pouvaient faire. Il n'empêche que, alors je vais vous justifier après pourquoi je dis ça, mais il n'empêche que se construit non pas des réformes différentes, mais bien un seul et même processus qui, et en particulier, s'accompagne d'une conception des transformations de la recherche et des transformations de l'université qui sont voulues. Alors pourquoi je vous dis ils n'ont pas nécessairement conscience ? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, lorsqu'a été mis en place les PIA, je ne suis pas sûr, en tout cas on n'a pas trouvé de preuves et ça me paraît assez peu probable, que les réformateurs avaient en tête le fait que les notes de l'AERS au moment où l'AES avait été créée comme une agence de notation, pourrait servir pour ensuite mettre en place la politique d'excellence. D'accord ? C'est juste, je ne veux pas vous faire croire que c'est un grand complot, en fait, qui est organisé, c'est pas du tout ça. Mais il y a des mesures qui sont mises en place, et ces mesures donnent des opportunités, etc., etc. Je pense que c'est beaucoup plus juste de voir les choses de cette façon-là. Donc, par rapport à cette présentation, je veux être à peu près au clair par rapport à cette lecture des événements. Alors, si on est à peu près d'accord sur ce... Ah ! Si on est à peu près d'accord sur ce déroulé de l'histoire, c'est-à-dire, alors, je vous le fais vraiment à grands traits, mais bon, vous ne m'en voudrez pas, on pourra revenir sur des éléments si vous voulez. Pourquoi ? Donc, je vous dis, finalement, ce qui justifie de dire qu'il s'agit d'une réforme, c'est que toutes ces mesures rentrent dans une conception des transformations des mots de l'université et de la recherche qui s'est constitué petit à petit en une forme de doctrine réformatrice. Alors, comment saisir cette doctrine réformatrice ? Eh bien, on a fait un truc que je ne vous conseille pas de faire. On a lu... Alors, on a d'abord rassemblé la quasi-totalité des rapports qui sont produits en général pour le ministère, mais pas seulement, de la fin des années 90 à aujourd'hui. On en a à peu près sélectionné une centaine qui sont principaux et on les a lus de façon assez approfondie. Alors, je vous dis, je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est très très pénible à faire. C'est pas une lecture particulièrement rigolote, mais ça nous a permis de saisir comment, en fait, la question de l'université, la question de la recherche est posée, et comment la façon dont on pose cette question évolue dans le temps. En fait, en travaillant de cette façon-là, eh bien, on peut saisir la façon dont se clôt petit à petit le discours sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et ce qui se passe, c'est que si on ne rentre pas dans ce cadre discursif, eh bien, en fait, on est quasiment inentendable. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une clôture qu'on saisit en lisant ces rapports. Alors là, je vous ai mis quelques rapports principaux, nous ont semblé particulièrement importants. Alors, je ne vais pas vous les détailler tous, ne vous inquiétez pas. Je vais juste insister sur deux, trois petites choses. D'abord, il y a toute une série de rapports, à commencer par le rapport Attali à la fin des années 90, pour un modèle européen d'enseignement supérieur, dans lequel on retrouve certains mots qui vont devenir ensuite des mots d'ordre réformateurs, mais qui n'ont pas du tout le sens qu'ils vont prendre quelques années après. En fait, la phase de construction du récit réformateur se joue entre la fin des années 90 et 2004. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette date-là. Par exemple, dans ce rapport-là, Attali, il parle aussi d'excellence, mais quand il parle d'excellence, il parle de l'excellence pour tous. Son idée, c'est développer une université qui serait capable d'apporter une forme d'excellence à tous les étudiants. C'est ça la logique qu'il donne à l'excellence. À partir de 2004, et c'est surtout un rapport qui est écrit par deux économistes, Philippe Aguillon et Élie Cohen, qui s'appelle « Éducation et croissance », dont, s'il y en a un que vous devez lire, c'est celui-là, objectivement. Ça vous éclairera, je pense, beaucoup sur les transformations actuelles. Et il y a celui-là, et il y en a un autre, je suis en train de mélanger les choses, qui s'appelle « L'excellence universitaire », Philippe Aguillon, en 2010. Quand Philippe Aguillon parle d'excellence, en fait, il parle de la même chose que ce dont parle Antoine Petit quand il parle des quilades. Il parle, en fait, d'un système profondément inégalitaire qui vise à concentrer les moyens financiers dans quelques organismes ou quelques acteurs, que ce soit des laboratoires, des chercheurs, etc., etc., pour concentrer les ressources sur les meilleurs au détriment de l'ensemble du système. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même signification qu'il y a dans le terme excellence entre 2010 et 98, par exemple. Le rapport de 2004 de Aguillon et Cohen est celui qui va justifier la LRU. C'est celui en particulier qui donne une nouvelle dimension à la notion d'autonomie. Cette notion d'autonomie a été un des mots d'ordre qui a été beaucoup lancé pendant cette période-là. Alors, évidemment, a priori, personne n'est contre l'autonomie. La seule différence, c'est que l'autonomie a été définie comme le renforcement du pouvoir hiérarchique administratif à l'intérieur des universités. C'est-à-dire, c'est l'autonomie des présidents d'université contre l'autonomie des universitaires. Et ce que je vous dis, la façon de vous le dire, je reprends à peu près ce que disait le président de la conférence des présidents d'université au moment de leur journée d'été. Est-ce que je vais retrouver ma citation ou pas ? Si vous voulez, alors je vais essayer d'avancer plutôt, parce que sinon on est... j'essaie de la retrouver tout à l'heure. J'essaie d'avancer parce que je sais qu'on est déjà en retard. Mais, bon, en tout cas, qui disait justement, en fait, on a connu l'autonomie des universitaires, il faudrait qu'on connaisse maintenant l'autonomie des universités. Sous-entendu, c'est pas la même chose. Donc vous voyez une définition du terme qui est radicalement différente de ce qu'on pourrait entendre par autonomie tout court, puisqu'il s'agit effectivement du renforcement du pouvoir des chefs d'établissement. À partir de 2000, alors donc 2004 c'est vraiment l'autonomie, 2010 c'est vraiment la justification des politiques d'excellence qui va se construire avec le rapport Avion. Alors il y a aussi des grands patrons hein, qui rentrent, qui sont des auteurs aussi, en particulier Tristan Blanc, hein, c'est un grand patron à l'époque, je crois qu'il était PDG d'Air France quand il écrit son livre pour un écosystème de la croissance. Donc en fait il y a toute une série d'acteurs hein, qui interviennent pour expliquer ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les mêmes mots qui sont construits, qui sont juste les mots MAUX qui sont donnés à l'université et à la recherche, et on va toujours vers les mêmes types de solutions. C'est très auto-référencé, ce type de littérature. La phase des socialistes est assez rigolote, parce qu'en fait, dans le rapport, il faut qu'ils justifient la réforme comme une réforme émancipatoire. Donc en fait, on va y avoir toute une série de travaux pour montrer que, en fait, il s'agit d'assurer la réussite des étudiants en licence, qu'en fait, voilà, derrière ces réformes sur l'autonomie, en fait, il s'agit d'assurer une émancipation des étudiants, etc., etc. Et donc il y a toute une série de rapports qui interviennent dans ce cadre-là et qui visent à redonner une forme de légitimité rhétorique à la réforme en la faisant passer pour une réforme de gauche. Et la phase Macron, on pourrait voir par exemple la loi de programmation pluriannuelle de la recherche a fait l'objet de plusieurs groupes de travail qui ont donné des rapports, ne s'embarrasse plus des formes euphémisées qu'on observait à la période socialiste pour justifier les réformes. Je vais insister juste sur un point du livre, mais qui va me permettre de croiser différents éléments sur les transformations du pouvoir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors là, je vous ai fait un beau tableau. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait, je vais vous expliquer ce que ça montre, et puis et ça va tenir dans les 10 minutes. Avec Christian Topalov, mais aussi avec les collègues physiciens, biologistes et informaticiens, on a rassemblé l'ensemble des listes des personnes qui sont dans toutes les institutions de pouvoir au sein de l'enseignement supérieur et la recherche. Alors là, j'ai pas la liste, j'ai pas gardé ma diapo avec la liste des institutions. Non, vous inquiétez pas, je... Alors, donc par exemple, le CNRS, le CNU, l'AERS, l'ANR, les ministères, toutes les directions d'organismes, les conseils d'administration d'organismes, les conseils scientifiques. Alors, on a une base de données où il y a dedans 1500 individus. Et dans ces 1500 individus, on a sélectionné ceux qui, d'une manière ou d'une autre, occupaient une position centrale de pouvoir. Soit parce que... Alors, on a fait ces coupes-là, on les a fait tous les 4 ans, à partir de 2005. Donc on a 2005, 2009, 2013 et 2017. Et on regarde ceux qui se maintiennent dans ce système du pouvoir et qui ont plusieurs affiliations dans plusieurs institutions. Et on regarde aussi ceux qui ont... On a 3 critères, en fait, de définition du pouvoir. Donc, soit le fait de rester dans le pouvoir en étant co-affilié, ou alors d'avoir un très grand nombre de co-affiliations. Et puis, l'importance du poste. Par exemple, quelqu'un qui est PDG du CNRS, on le prend, on le garde. D'accord ? Quelqu'un qui est ministère, etc. Et dans cette grande population de 14 800 personnes exactement, on en a gardé 406. Et sur ces 406, on a épluché systématiquement tous les CV. Alors, on a utilisé à la fois des CV quand il y avait des CV dans les laboratoires. Le problème, c'est que ces gens-là, en général, ils ne sont plus dans les laboratoires. Donc, on a aussi absorbé le Bousbou. On a travaillé avec toute une série de notices, de données qui sont publiques, qu'on trouve sur Internet. Et à partir de ça, donc, on a toute une série d'indicateurs sur ces personnes, dont vous avez là un petit échantillon, à la fois sur le type de carrière, le type d'école où ils ont été. Alors on a aussi des annuaires d'école pour ça, les activités de notoriété scientifique qu'ils ont pu avoir, est-ce qu'ils ont dirigé des thèses, pas dirigé des thèses, c'est comme ça qu'on a su que Frédéric Vidal n'avait jamais dirigé aucune thèse, pourtant les professeurs d'université. Voilà, le nombre de publications qu'ils peuvent avoir, on a regardé par rapport à ResearchGate, tout ça c'est des indicateurs, on peut les discuter si vous voulez. Les médailles du CNRS, très très important. Les membres de l'Académie Europaea, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très important. L'Académie des technologies, très important aussi. Les fonctions dans les laboratoires, toutes les fonctions universitaires, les fonctions électives, dans les agences, et puis toute une série d'indicateurs qui vont s'avérer en fait extrêmement importants, ce qu'on appelle la notoriété mondaine, les gens d'honneur, hors du mérite, les pages académiques. Et puis on a utilisé nos sources aussi comme des indicateurs, c'est-à-dire on considère que le fait d'avoir une notice dans le Gouzou, c'est un indice de notabilité mondaine, ou dans Wikipédia, etc., etc. À partir de ça, on a fait, je ne sais pas si vous êtes... vous avez l'habitude à ça, mais on fait un espace qui nous permet de voir comment se combinent les différentes... je ne sais pas si c'est visible. Je crois que c'est la première fois que c'est visible, tellement on a un vidéoprojecteur grand. Alors, je vais vous expliquer. Est-ce que j'ai une souris? Ouais. Donc, en fait, cet espace, il vient projeter hein, ce nuage de variables, et puis il nous permet de voir si, comment, ça propose un espace des propriétés des principaux dirigeants, c'est-à-dire lorsqu'on a plutôt telle propriété, on a aussi plutôt telle propriété. Je vous le fais rapidement. Plus on est de ce côté-ci, plus on est, on va dire, à l'ouest, plus moins on a de responsabilités, quelles qu'elles soient. D'accord ? Plus on est à l'est, plus on en a, quelle qu'elle soit. Plus on est au sud, plus le type de responsabilités qu'on a sont des responsabilités de type universitaire. Plus on est au nord, moins ces responsabilités sont de type universitaire. Ok ? J'ai un deuxième, hop, j'ai un axe 3. Donc là, j'ai gardé l'axe 1 en abscisse et j'ai mis l'axe 3 en ordonnée. Cet axe 3, en fait, il divise ceux qui ont des indices de notabilité mondaine et de pouvoir de dirigeants administratifs, ils sont au nord, et ceux qui n'en ont pas, pardon, c'est passé tout seul, et ceux qui n'en ont pas, ils sont au sud. À partir de ça, et à partir de ces variables, eh bien, ça, c'est les individus. Et les individus, on a fait une petite classification avec. Parce que nous, notre idée, c'est de dire, on travaille sur des données, et on veut que nos données soient clean, donc c'est pas nous qui allons dire qu'on fait tel regroupement et tel regroupement. D'accord ? Donc c'est la méthode qui le fait, on a fait une classification ascendante hiérarchique, et sur cette classification, on a fait une consolidation par ailleurs. On a, en fait, 5 profils de personnes, ceux qu'on appelait d'abord les ingénieurs recherche et développement, sont des gens, en fait, qui n'ont pas de pratique scientifique, qui sont plutôt diplômés d'école d'ingénieurs, souvent de l'école polytechnique, mais pas que. Et donc, en fait, ils sont qualifiés ici par le fait qu'ils n'ont pas d'activité scientifique, pas de responsabilité universitaire, pas de responsabilité scientifique, sauf de se retrouver dans les directions des organismes. Mais pas que. On y reviendra. Donc, ils sont ici, en noir. Et on a, alors, le strict opposé, ce sont ceux qui sont ici. Alors, je ne sais pas quelle couleur ils arrivent pour vous, en marron clair, on va dire. C'est ceux qu'on a appelés les scientifiques distingués. Alors, ils sont distingués parce qu'en fait, ils ont beaucoup de distinctions. D'accord ? Donc ce sont ceux qui ont des médailles du CNRS, des prix Nobel, etc., etc., qui sont aussi des gros publicants, etc. Ça, c'est les deux extrêmes opposés. Et puis, on a des positions un peu plus intermédiaires, en rouge, qui se mélangent un peu avec les ingénieurs recherche et développement. On a ceux qu'on appelait les administrateurs notabilisés des organismes, qu'on trouve plutôt à la tête des organismes, qui se distinguent de ceux qui sont ici en bleu foncé, qu'on appelle les administrateurs notabilisés de l'université. C'est grosso modo les présidents d'université. Et puis il y a deux autres catégories qui sont un petit peu plus marginales. Ceux qu'on a appelés d'abord les petits patrons scientifiques. Ils ressemblent en fait aux scientifiques distingués, mais ils ont moins de distinctions. Et puis ceux qu'on appelle les cadres ordinaires de la science, qui ressemblent aux... enfin disons que les petits patrons scientifiques qui sont entre les administrateurs de l'université et les directeurs de la recherche. Et les cadres ordinaires, ce sont ceux qu'on retrouve typiquement au Comité national de la recherche scientifique, en tant que directeur scientifique adjoint dans les instituts du CNRS. Et donc là, vous voyez à peu près comment ça se spatialise. Donc vous voyez bien, en bas, c'est plutôt ceux qui ont des responsabilités universitaires. Alors évidemment, les scientifiques distingués, ils sont très éloignés de la pratique universitaire. Donc ils sont tout en haut. Et là, c'est ceux qui n'ont pas d'activité scientifique. Hein. On y retrouve à la fois les dirigeants des organismes et ceux qu'on appelait donc les ingénieurs en recherche et développement. Il y a une grosse partition qui se fait selon l'axe 3. En fait, on sépare les fameux administrateurs des universités, qui sont ceux qui, en fait, cumulent très fortement les indices de notabilité mondaine, qu'on va retrouver dans les directions des écoles d'ingénieurs, dans les présidences d'universités, qui ont évidemment tous la Légion d'honneur, l'Ordre du Mérite, etc., etc., et qui se distinguent tout en bas. On a les scientifiques distingués qui sont là, parce qu'en fait, ils n'ont pas ce type de notabilité-là. Et donc, ils sont rassemblés aussi avec les cadres ordinaires, par exemple. Voilà. Alors, maintenant qu'on a cette typologie en tête, où est-ce qu'on les retrouve? Et alors ça, c'est un peu notre trouvaille. Alors là, je vous ai mis les directions du ministère, l'ANR et l'AERS. Alors je dirais AERS même pour le HCERS, d'accord? Vous ne m'en voudrez pas. Ce que je voudrais juste vous montrer, c'est deux, trois petites choses. La première, si on prend juste le ministère, on a un ministère qui est séparé en deux grandes directions aujourd'hui, la direction de l'enseignement supérieur, la DGESIC aujourd'hui, parce qu'elle s'occupe aussi d'insertion professionnelle, est une affaire en fait de président d'université. D'accord, ce qu'on retrouve en fait là, ce sont les notables de l'administration universitaire qui s'occupent au ministère de cette direction-là. Et traditionnellement, du côté de la direction de la recherche et de l'innovation, eh bien, on avait des notables des organismes de recherche qui s'y collent. Alors, on peut noter auparavant, avant la fusion entre la DT, direction de la technologie, et la DR, direction de la recherche, on avait des profils de chercheurs qui s'occupaient plutôt de la recherche, des profils de notables des organismes qui s'occupaient plutôt de la technologie. Alors Jean Gagnepin est un personnage assez intéressant parce qu'en fait il était au CNRS mais en sciences de l'ingénieur, d'accord, et donc il était très lié à l'industrie, enfin en tout cas à la recherche aussi industrielle. Hop, 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 hop. J'ai cliqué sans faire exprès. Et au moment où il y a une fusion entre la DR et la DT, ce qu'on voit, c'est que les profils de scientifiques disparaissent, et en fait, ce sont les profils qui s'occupaient avant de la direction de la technologie qui prennent le pouvoir au sein de la direction de la recherche et de l'innovation. Gilles Bloch, qui vient du CEA, par exemple, et alors, il arrive pour installer la direction de la technologie après avoir installé l'Agence nationale de la recherche. C'est le premier directeur général de l'Agence nationale de la recherche. On voit ici. Et en fait, avant d'installer l'Agence nationale de la recherche, il est au cabinet du ministre, de la ministre, du ministre. En fait, l'ANR est installé par la direction de la technologie. C'est Jean-Jacques Gagnepin qui va prendre la tête de l'ANR avec Gilles Bloch. Et la direction et l'agence d'évaluation, elle, est une affaire, depuis l'origine, de professeurs d'université. Et donc, elle est mise en place par Jean-Marc Monteil, qui était, à ce moment auparavant, directeur de l'enseignement supérieur. Que l'on soit bien d'accord, tous ceux qui disent ad nauseam que les agences sont indépendantes se foutent de notre gueule. D'accord ? Vous le savez déjà, maintenant vous avez peut-être des arguments en plus. De fait, c'est le ministère qui installe l'une et l'autre par les plus hauts cadres du ministère. D'accord ? Ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que si on prend la direction de la recherche et de l'innovation, vous voyez, il y a toute une série comme ça de profils, les profils orange. Donc c'est, c'est le temps, je ne vous ai pas expliqué, mais vous avez compris, c'est le temps qui défile, plus on va au sud. En fait, les profils même de notables des organismes s'effacent. Alors, vous allez dire, il y a un intrus en la personne d'Alain Béret, il ne devrait pas être là. Alors après, pour la petite histoire, certains m'ont expliqué qu'Alain Béret devait récupérer en fait la direction de l'enseignement supérieur, mais à cette époque-là, il y avait Bonafou qui était installé et ils n'arrivaient pas à sortir Bonafou, et donc ils lui ont filé la DGRI pendant quelques temps. Mais il ne devrait pas être là. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les derniers en fait qui interviennent maintenant, qui s'occupent au ministère de la DGRI. Alors je ne suis pas là tout date, effectivement, je me suis arrêté à Claire Géry, vous ne m'en voudrez pas. Mais Bernard Larouturou et Claire Géry apparaissent en fait dans notre classification comme des ingénieurs recherche et développement. C'est-à-dire des gens qui ont en fait une très grande distance avec la pratique scientifique et une très forte proximité avec l'innovation et plutôt la recherche appliquée et l'industrie en particulier. C'est le cas de Bernard Larouturou. Alors, Claire Géry, c'est un peu plus compliqué. Claire Géry, pour vous expliquer aussi, je ne sais pas si vous avez ça en tête, c'est quelqu'un qui a une thèse. Mais elle est rentrée au CEA pour s'occuper de communication scientifique et elle a fait une carrière administrative jusqu'à devenir directrice adjointe des sciences de l'environnement au CEA. La direction des sciences de l'environnement du CEA est un lieu de pouvoir très important. qui permet d'accéder au ministère, et donc elle n'a jamais fait de recherche de sa carrière, à part si on considère que, oui, la thèse, c'est une partie de recherche, mais depuis qu'elle a sa thèse, elle ne fait plus de recherche du tout. Mais avant d'être au ministère, elle va faire un petit tour à l'INSERM pour s'occuper de ce qu'on appelle la direction des partenariats. Donc en fait, ça veut dire les relations avec les entreprises. Donc on a vraiment au ministère maintenant des profils qui sont de plus en plus éloignés de la recherche et de plus en plus proches de l'industrie. On a exactement le même mouvement qui apparaît à l'ANR, où, en fait, une fois que l'agence a été installée par le ministère, Gilles Bloch donc, va aller s'occuper de la fusion de la DET et de la DR, et on va installer à la présidence de l'agence des gens qui ont du crédit scientifique, vous voyez, ils sont indiqués ici comme des scientifiques distingués, et on garde à la tête, par contre, de la direction générale, des notables de l'administration qui sont spécialisés depuis déjà très longtemps dedans, avec des profils qui, moi, me semblaient étonnants. Par exemple, Jacqueline Le Courtier, lorsqu'elle est choisie pour remplacer Gilles Bloch, Jacqueline Le Courtier fait partie des cadres de l'Institut français du pétrole. Alors, je sais, vous allez me dire que maintenant, on appelle ça l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables, des énergies nouvelles. Mais bon, à l'époque, c'était l'Institut français du pétrole. Et donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est le genre de spécialité qui était vraiment au cœur de la pratique scientifique pour diriger l'agence qui finance aujourd'hui, qui a le monopole du financement de la recherche, et qui était présentée comme la personne absolument parfaite et dans la communication de l'agence, en particulier parce qu'elle était capable de faire discuter ensemble la recherche des organismes publics et les opérateurs privés. Et surtout, à partir du moment où il y a la fusion de ces deux... Pascal Briand, bon, bref, on s'en fout. À partir du moment où il y a une fusion entre la présidence et la direction générale, eh bien là, ce sont des profils à nouveau, en fait, d'ingénieurs en recherche et développement qui prennent la main, donc des gens qui sont très éloignés, encore une fois, je disais, de la pratique scientifique et qui prennent ce pouvoir-là. Je dépasse par rapport à ce que je vous avais promis. Si on regarde la même chose sur ce qui se passe dans les organismes, eh bien, on retrouve la même chose, l'effacement des profils de scientifiques à la direction, hein, là où on s'intéresse qu'aux directions. Et puis même, dans la période la plus récente, l'effacement également de ceux qui avaient encore un peu d'attachement avec la pratique scientifique, qui étaient les notables des organismes, qui sont remplacés petit à petit par des ingénieurs recherche et développement. Alors, c'est tout à fait cohérent avec la doctrine, je suis passé très très vite tout à l'heure, mais en fait la doctrine est en particulier tenue par l'idée que il faut dorénavant que la recherche, c'est le propos de Philippe Aguillon, hein. En fait le propos de Philippe Aguillon est de dire la croissance est à tonne en Europe, pour faire de la croissance il faut l'innovation, pour faire l'innovation eh ben, il faut que la recherche et l'université soient tournées vers l'innovation. Donc c'est pas par hasard en fait si on fait appel à ces nouveaux types de profils. Les ingénieurs ont toujours été présents dans le système du pouvoir dans l'enseignement supérieur et la recherche, en particulier par les grands corps d'État, mais ils étaient plutôt proches de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Hein. On l'a trouvé aussi au CEA, qui a aussi une co-tutelle avec le ministère de la Défense. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce personnage-là est vraiment placé au cœur de l'ensemble du système du pouvoir, dans les organismes également. Je voudrais juste vous montrer un dernier petit graphique. C'est les flèches indiquent le déplacement des personnes. C'est juste les deux tableaux là que je vous ai présentés, que j'ai mis l'un à côté de l'autre, pour vous montrer comment les gens se déplacent. Et j'ai rajouté le cabinet tout à gauche. Donc vous voyez comment c'est un petit monde dans lequel on se déplace assez facilement. Et il y a des lieux de recrutement privilégiés de réformateurs. Il y en a deux principaux qu'on peut identifier. La présidence de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, j'ai rien contre l'INRIA, hein, d'accord, parce que, eh bien, au même moment, il y a quelques années par exemple, eh bien, Bernard Arouturou qui a été PDG de l'INRIA au début des années 2000, s'était retrouvé directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère. Son successeur à la présidence de l'INRIA, Michel Cosnard, présidait l'AERS. Et le successeur de Cosnard à la présidence de l'INRIA, qui s'appelle Antoine Petit, était PDG du CNRS. Et c'est pas un hasard, en fait, si on choisit des dirigeants dans ces endroits-là, parce que l'INRIA est un des organismes dans lesquels la recherche et les partenariats avec l'industrie sont particulièrement développés. Et ça fait partie de la politique scientifique de l'Institut, même au point où ça pose des problèmes à l'intérieur de l'Institut. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais il y a eu plusieurs mouvements de chercheurs au sein de l'INRIA, justement pour dénoncer cette politique tournée vers l'innovation et vers l'industrie, et en particulier vers l'industrie de l'armement. Un autre lieu qui a été une vraie surprise pour nous, c'est les départements de sciences du vivant du CEA. Et on n'a pas de... Je n'ai pas plus d'hypothèse pour vous expliquer cela, mais un grand nombre de réformateurs... Alors, il faut que je reprenne, parce que je connais, à un moment donné, quand même, j'arrive pas à retenir tous les noms. Je vous ai dit que Claire Giry venait de là, mais ce n'est pas la seule. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Et là, mon grand âge fait qu'en plus, j'arrive pas à lire ma diapo. Vous ne m'en voulez pas. Donc, Gilles Bloch, Roger Genet, Claire Giry, tous ces gens-là, en fait, ont exactement, il y en a d'autres, exactement le même profil. Ils passent par le département des sciences du vivant, du CEA, ils basculent au ministère, et ensuite ils sont pris dans la machine, et si jamais il y a une alternance politique, ils peuvent rebasculer au CEA, le temps que ça se passe, et ensuite revenir dans les différents postes de responsabilité. Un qui dure depuis très longtemps, hein, qui est vraiment un réformateur formidable, il paraît qu'en plus il est sympathique, mais je le connais pas, c'est Gilles Bloch. Gilles Bloch, donc carrière dans l'administration du CEA, département des sciences du vivant. Il rentre au cabinet du ministre au début des années 2000. Il va s'occuper de l'installation de l'ANR. Une fois que l'ANR est installée, il installe la DGRI. Une fois que la DGRI est installée, il va filer à la présidence de l'INSERM. Aujourd'hui, il s'occupe de la présidence du Muséum, ce qui doit être une sacrée voie de garage quand même. Voilà, mais je voulais juste vous montrer comment ça circule ce petit monde et comment en fait derrière et vraiment avoir en tête que le système du pouvoir est profondément bouleversé et que les types de dirigeants qu'on a sont pas les mêmes et que c'est pas un hasard et qu'en fait il y a vraiment une volonté, c'est vous montrer comment on peut saisir les effets de la réforme par les transformations des personnes qui habitent les institutions de la réforme.